Bonsoir Michel Ledeuf, bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis ravie d'être avec vous ce soir. Alors pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, Michel et moi allons dialoguer pendant 45 minutes à peu près. Et puis à 19h15, il y aura un petit temps pour celles et ceux d'entre vous qui le désirent. Vous pourrez vous procurer le livre avant que la librairie ne ferme. La librairie est juste derrière le comptoir et elle ferme à 19h30. Donc on fera cette petite pause de 10 minutes à peu près. Et puis, vous reviendrez parmi nous, j'espère. On sera là et vous pourrez poser des questions à Michel Ledeuf ou lui faire toutes les remarques que vous souhaiterez. Alors,
Et ensuite, il y a du prosecco.
Et ensuite, il y a du prosecco. Du prosecco.
Non, non, mais on a toujours peur que l'essentiel soit oublié.
Alors...
Oui, on pourrait commencer par là d'ailleurs.
Mais on va commencer par le pré-essentiel puisque...
Bon.
Alors Michel Ledeuf, vous êtes l'autrice de l'essai dont nous allons parler ce soir qui s'appelle « Le sexe du savoir ». Il est publié aux éditions de l'ENS et vous avez un... J'aimerais qu'on commence avant de parler de cet essai par parler un petit peu de vous. Vous avez un parcours remarquable, hein, ancienne élève de l'ENS, philosophe, féministe, ancienne directrice de recherche au CNRS, professeure honoraire à l'université de Genève, bretonne, vous m'avez dit que c'était important de le préciser.
Très, très précisément, oui.
Militante aussi, comme vous le racontez un petit peu dans votre essai. Alors, vous avez publié de nombreux ouvrages. L'imaginaire philosophique chez Payot en 1980. L'étude et le rouet au seuil, dont mon petit doigt me dit qu'il doit être assez féministe, celui-là. Et vous êtes spécialiste de Bacon, dont vous avez établi l'édition française de deux essais. Progrès et avancement du savoir et la nouvelle Atlantide. Vous avez aussi traduit un texte peu connu de Shakespeare, Vénus et Adonis, et nous, qui a été adapté au théâtre, et il ne s'agissait pas de théâtre, mais d'un long poème. Et ce soir, donc, on a le plaisir de vous écouter pour nous parler de la réédition de ce livre passionnant, donc Le sexe du savoir, dont la première édition datait de 1998. Alors, avant de nous immerger dans cet essai, qui est autant passionnant que caustique d'ailleurs, j'aimerais que vous nous parliez un petit peu de vous, Michel Ledeuf. Vous êtes féministe, universitaire, et on dit souvent qu'un travail de recherche, c'est l'œuvre d'une vie. C'est un grand engagement. J'ai l'impression que c'est le cas pour vous, même si vous ne vous interdisez pas de prendre des chemins de traverse. Vous pratiquez l'analyse de la pensée de la pensée, mais aussi l'analyse de la rumeur, des préjugés et la façon dont ce que vous nommez l'imaginaire du connaître a un impact sur nous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de dénoncer le sexisme, tant dans le champ académique d'ailleurs, que dans la production de textes philosophiques, en révélant ses effets particulièrement sur la transmission du savoir? C'est parti d'où?
Ah, c'est un peu compliqué à raconter, hein, mais en gros, j'ai été très engagée dans le mouvement féministe jusqu'en 75-76, c'est-à-dire jusqu'au moment où le premier vote de la loi Veil, puisqu'il a fallu deux votes, on y croyait tellement peu dans les hautes sphères de la République qu'ils ont accordé un premier vote, mais ça n'était valide que pour 5 ans. Et après, il a fallu revoter la loi Veil. Alors, en tout cas, le fait que la loi Veil ait été votée m'a un peu mise en vacances.
C'est-à-dire?
Ben, c'est-à-dire que il n'y avait plus à aller aux manifestations le samedi, il n'y avait plus à organiser des séances parfaitement illégales, clandestines et risquées. Pour les femmes qui ne pouvaient pas partir en Hollande ou à Londres. Ça voulait dire aussi pas de réunion, plus de réunion, du moins pour moi, parce que j'ai pris mes distances par rapport au mouvement à ce moment-là. Et j'avais en effet en tête que peut-être il faudrait que je passe un peu plus au théorique, enfin, que j'allais pouvoir écrire. Et il y a là une témoin de la question, Daniel. J'avais à l'époque un certain nombre d'élèves à l'ENF de Fontenay qui étaient toutes des filles et puis souvent éventuellement mères de famille d'ailleurs. Enfin, Daniel avait eu un bébé au mois d'octobre de son année d'agrégation. Et donc, la petite fille est venue en cours assez souvent quand les cours avaient lieu en fin d'après-midi parce que ben, la crèche, à ce moment-là, c'était pas tellement possible. Bon. Et on se parlait un peu comme ça, dans les couloirs. Et ce sont elles qui m'ont mise au boulot. Et alors ça, je vous le recommande pas. C'est-à-dire que elles m'ont fait trimer, mais comme c'est pas Dieu permis, c'est-à-dire on a donc décidé que mon séminaire dans les deux années qui suivraient, ça serait sur les femmes et la philosophie. Bon, j'ai passé l'été à écrire une espèce de préambule pour mon séminaire. Pour pas que ça parte dans tous les sens, une sorte de mise au point sur un certain nombre d'idées et de questions. Alors, finalement, ça a été publié en anglais et en français 6 mois plus tard. Et c'est « Cheveux longs, idées courtes » que vous trouveriez dans l'imaginaire philosophique et que Manon Garcia a réédité dans sa collection Chevrin. Bon, et donc on s'est embarqué. Et elles m'ont fait trimer.
Mais alors là, vous avez mis le pied à l'étrier, si je puis dire. Et cette question de la connaissance, de l'apprentissage, de la diffusion du savoir, elle est vraiment centrale dans cet essai, que vous commencez d'ailleurs en cassant un cliché. Vous dites, c'est pas parce qu'on a accès à l'éducation en France qu'on a accès à l'égalité. Qu'est-ce que ça signifie ?
Eh bien... Là, alors, vous me posez une sacrée colle. J'allais encore me plaindre de mes élèves de pendant ces deux années où il a fallu répondre à leurs questions et jamais je n'avais la réponse toute prête, si bien qu'il fallait travailler comme une folle jusqu'à la séance de la semaine suivante pour... donner un début de réponse à ces questions. C'est elles qui m'ont fait relire Simone de Beauvoir très vite, qui m'ont fait relire Sartre très vite. Mais, bon, on a accès à l'éducation, en effet, et puis, en France, et puis on trouve sur notre chemin un certain nombre d'obstacles matériels et d'obstacles immatériels.
Quel genre d'obstacles, par exemple ?
Oh, à coquine ! Elle va faire semblant de n'être au courant de rien et de n'avoir jamais réfléchi. Voilà, histoire de m'obliger à reprendre les choses à zéro.
Vous avez tout compris, je suis démasquée.
Oui, voilà, bon. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui n'est aucune idée des obstacles que l'on peut rencontrer sur sa route? Voilà. Il y en a une qui s'est dévouée, une autre aussi. Comment? Oui, mais on ne peut pas partager?
Si, mais il y en a toute une série, donc on va pouvoir les discuter.
Oui, ben oui. Il y a par exemple que en lycée, Et encore, je n'ai pas vraiment connu la mixité en lycée. Hein. Mais qu'en lycée, curieusement, on oriente plutôt les filles vers des filières courtes ou alors des filières littéraires. Ou alors c'est les parents qui disent innocemment « T'as eu ton bac, ma fille, bravo, qu'est-ce que tu veux faire après ?» Lettres ou psycho ? Et la fille, elle avait envie de faire médecine. Mais si on lui donne le choix entre lettres et psycho, déjà, on lui barre la route pour les études de médecine. Et puis, ensuite, il y a les camarades garçons qui ne sont pas toujours trop simples dans les études supérieures, qui vous disent qu'il faut lire. Non, lis pas ça, tu pourras pas. Et puis, les profs qui enseignent seulement telle chose dans un séminaire uniquement pour garçons. Et puis, là, je pense au calcul des prédicats. On nous enseignait, quand j'étais en licence, on nous enseignait très ouvertement le calcul des propositions. Et c'était bien, c'était rigolo. La méthode des arbres, c'était bien aussi. Mais pour faire le calcul des prédicats, il fallait être inscrit à la rue d'Ulm. Et à l'époque, à la rue d'Ulm, c'était seulement pour les garçons. Donc, il y avait des pans de savoir qui nous échappaient toujours.
Et alors, pour en venir aux garçons, justement, d'ailleurs, il n'y en a pas énormément dans la salle. Cet essai, c'est aussi l'opportunité d'apprendre énormément. Vous déconstruisez beaucoup de mythes, vous en révélez beaucoup aussi. On est presque dans la promenade, on sent que vous prenez beaucoup de plaisir à nous surprendre. Alors, soit en dégommant de célèbres barbus, comme vous dites souvent, soit au contraire en révélant leurs idées insoupçonnées. Il y a notamment toute une recherche sur le mot « bas bleu », sur lequel j'ai appris beaucoup de choses, mais qui est parfois employé, consciemment du moins, à total contre-emploi par les femmes. Tellement ce mot est passé.
Oui. Bon, j'avais invité à un séminaire de philosophie du XVIIe siècle une très solide spécialiste de Bacon, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, qui avait fait un exposé brillant. Et la semaine suivante, au bistrot, les collègues de me dire « Ah, merci d'avoir invité une femme si intéressante et si sympathique. C'était formidable. Merci, Michel. » Et en plus, elle n'est pas bâble du tout. C'est émerveillé, une femme. Une collègue femme. Alors, rentrant à la maison, j'ai commencé à chercher pourquoi on parlait de bas bleu et pourquoi est-ce que ma copine Lisa Jardine, car c'est d'elle qu'il s'agit, aurait pu être un bas bleu. On avait eu peur de ça. Bon. Et puis, je suis partie dans des fouilles archéologiques incroyables. J'ai découvert que le premier sens de bas bleu, c'est désignait le Parlement de Cromwell, et c'était des hommes qui auraient été capables, on ne sait pas si c'est par procès d'intention ou réellement, mais ils auraient été capables de venir siéger à l'Assemblée, enfin au Parlement, avec des grosses chaussettes bleues en laine, comme on en porte à la maison, au lieu de tirer sur leurs jambes les bas de soie noire qui conviennent aux cérémonies. Et ça a été donc une injure formulée évidemment par des réactionnaires qui n'appréciaient pas trop la politique de Cromwell non plus, une injure dirigée contre des puritains fanatiques de l'essentiel et qui auraient bien été capables de faire ça, et peut-être qu'ils l'ont fait. Bon. Et puis ensuite, au XVIIIe siècle, c'est toujours une injure pour les hommes. Et là, il y a un certain Benjamin Stillingfleet qui fréquente un hôtel particulier extrêmement chic. Et lui, il y allait pour de bon avec des chaussettes et pas des bas de soie. Alors, le cercle littéraire qui se réunissait dans cet hôtel Montague fut baptisé le Blue Stockings Society, la Blue Stockings Society. Et puis, c'est seulement plus tard, quand le mot n'avait plus de référent, c'est-à-dire qu'on arrêtait d'embêter les hommes qui portaient des chaussettes, que c'est seulement plus tard que le terme, toujours insultant, a glissé sur les jambes des femmes. Et a blue stocking lady, c'est une femme qui aurait été capable d'assister à des rencontres littéraires avec des chaussettes bleues et non point des bas. À une époque où nous portions toutes des très longues jupes, si bien que c'est une accusation invérifiable. Bon. Et puis, ça a fini par devenir synonyme de femme qui s'intéresse aux choses de l'esprit, ce qui est infiniment condamnable. Voilà, en gros.
Terrible.
Oui, mais... non, mais je veux dire, on n'a qu'une vie, d'un point de vue intellectuel aussi. Et si ce n'est pas pour s'amuser de temps en temps à faire des recherches apparemment absurdes, je me demande bien pourquoi.
Mais on découvre aussi, en lisant votre essai, en lisant votre essai, on découvre aussi nos faux amis à nous les femmes, comme la fameuse intuition féminine, où vous nous révélez que finalement, quel que soit le bout par lequel les philosophes prennent cette formule, qu'il s'agisse d'Hegel ou de Schopenhauer, eh bien, nous les femmes, on est les grandes perdantes dans l'histoire.
Tous les coups, oui. La recherche sur les bas bleus avait servi à introduire la question de l'intuition. Pour résumer, l'intuition chez les Grecs, on va dire noésis, c'est... je ne sais plus le grec ce soir, ça ne fait rien. L'intuition a été pendant longtemps un mode de connaissance premièrement valorisé pour les philosophes, deuxièmement, articulable à d'autres modes de connaissance, pas quelque chose d'isolé. Si on fait un grand plongeon pour arriver à M. Descartes, on s'aperçoit aussi que pour Descartes, dans les régulés, eh bien, en mathématiques, on commence par l'intuition, et puis pour les vérités de base, et puis ensuite il y a la déduction pour aller aux choses plus compliquées. Donc pour Descartes, il y a intuition et déduction, et ça fait bon ménage dans la même tête, pas de problème, à condition que la tête en question soit très fonctionnelle. Et puis finalement, vers le XVIIIe siècle, il se passe quelque chose de bizarre. On n'arrive plus à loger toutes les facultés mentales possibles dans la même cervelle. Alors, l'intuition s'est retrouvée attribuée aux femmes, mais comme allégation invérifiable et notée très, très négativement. Bon. Et finalement, si on fait encore un grand saut et qu'on arrive à Schopenhauer et Hegel, Schopenhauer dit « Moi, contrairement à Hegel, je pars de l'intuition, etc. » On pourrait croire dans ce cas-là qu'il va nous revaloriser. Eh bien, pas du tout. Comme il a revalorisé l'intuition, il va dire de la raison, il y a quelque chose de féminin dans la raison. Elle ne donne que ce qu'elle a reçu. Et c'est donc finalement la faculté déficiente nous est métaphoriquement attribuée.
Mais alors dans cet essai, Michel Ledeuf, c'est un peu balance ton philosophe quand même. Il y a tout un passage sur Rousseau dont vous nous dites qu'il n'avait pas forcément des idées sexistes au départ, Jean-Jacques Rousseau, mais alors il se lâche complètement dans les mille avec le personnage de Sophie qui va être la boîte de Pandore de son sexisme. Alors, donc pas d'éducation pour les femmes ou alors une éducation religieuse minimale. Il écrit aussi qu'elles doivent être gênées de bonheur, soumises au mari, ça va de soi. Et qu'est-ce qui lui a pris à Jean-Jacques Rousseau ?
Oh, il a suivi un itinéraire que je ne recommanderais à personne. En effet, vers 1734-1735, il écrit un texte très étonnant. C'est peut-être un brouillon déclamatoire est ponctué de « Et messieurs, je vous dis ». Alors, le paradoxe, c'est que justement, ça s'adresse à des hommes. « Messieurs ceci, messieurs », comme s'il parlait dans une académie de province, puisqu'il était aux Charmettes à ce moment-là. Et puis, et là, il a l'air assez ouvert à l'idée d'égalité des sexes. Il dit que si les hommes n'avaient pas privé les femmes de moyens de s'instruire, de moyens d'agir, alors on verrait des tas de belles choses faites par les femmes, etc. Et on pourrait croire en effet qu'à l'époque, il est sur la bonne voie pour devenir peut-être un bon théoricien de l'égalité des sexes. Mais malheureusement, il a repris plein d'idées. Bon, à mon avis, il avait lu une philosophe. C'est une hypothèse que oui. J'aimais. Je ne peux pas la démontrer. Je pense qu'elle est plausible, mais je ne peux pas dire plus que ça. Quand il était au Charmettes, Rousseau avait accès à la bibliothèque du propriétaire de la maison que Madame de Varence louait, un monsieur de Conzier, peut-être marquis ou comte, et une bibliothèque très substantielle. Il n'est donc pas impossible qu'il y ait trouvé le traité de la morale et de la politique
de Gabriel Suchon,
philosophe remarquable qui a vécu essentiellement à Semur en Auxois, en Bourgogne.
Mais alors, qu'est-ce qui se passe ? J'adorerais qu'on parle ensuite de Gabriel Suchon tout à l'heure, mais admettons qu'il ait lu Gabriel Suchon, que ça l'ait marqué, que ça l'ait inspiré pendant un temps. Qu'est-ce qui fait que dans l'Émile, il ponce tous ces passages, ce gros chapitre qui est très misogyne ? Pourquoi ?
Ok. Je crois qu'on peut avoir comme principe régulateur, ou question en tout cas, que un système philosophique n'est jamais contraignant, même pour son auteur, et que si une théorie philosophique entre en contradiction avec le patriarcat et la solidarité masculine, à ce moment-là, c'est la théorie qui cède.
Mais d'ailleurs, vous montrez aussi que... Donc, il y a ce passage sur Rousseau. On en apprend de belles sur les philosophes, sur les anthropologues aussi. Alors, il y a Lévi-Strauss, il y a Rousseau, on vient d'en parler. Il y a Derrida. Il y a Spinoza aussi qui, lui, nous fait un petit déni de réalité.
Qui ça ?
Spinoza.
Qui fait un petit déni de... Ah, le pauvre Spinoza. Mais oui.
Alors ? Alors, pour lui, les femmes n'ont jamais gouverné.
C'est ça. Il écrit ça gentiment. Il est à la fin de sa vie et il est fatigué. Bon, on va lui trouver des excuses parce qu'on est même très gentille. Mais c'est la dernière page qu'il a écrite et où il dit qu'en effet, ça ne s'est jamais vu où que ce soit que si les hommes et les femmes vivent ensemble, les femmes gouvernent. Il y a bien le mythe des Amazones, dit-il, mais c'est une fiction. Et puis, il n'y a pas d'homme avec elle, donc il faut bien qu'il y en ait une qui gouverne. Et donc, ça ne s'est jamais vu nulle part. Et il écrit ça pas très longtemps après la mort d'Élisabeth Ière d'Angleterre, qui avait tout de même régné pendant 40 ans. Et de manière assez publique, et ça se savait qu'il y avait une reine tout de même en Angleterre. On pourrait trouver d'autres exemples, mais Élisabeth, c'est le plus gros que je puisse proposer. Et oh ben d'ailleurs, j'en ai trouvé une ce matin du même goût. Vous allez dire, là, on va pinailler, mais tant pis. Vous prenez l'édition Pléiade de Rousseau, tome 2, où se trouve justement le fameux texte de Rousseau qui semble être sur la bonne voie pour dire « Laissons les femmes développer tout leur potentiel et on va voir ce qu'on va voir. » Bon. Et il y a des noms propres qui circulent dans ce texte, dont Élisabeth. Alors, Bibliothèque de la Pléiade, appel de notes, je vais regarder. La note, et Monsieur Gagnebin, éminent rousseauiste, dit « Rousseau pense sans doute à Élisabeth, épouse de... chien... c'est pas Dagobert, mais c'est un nom médiéval en diable. Une dame... qui avait épousé un roi de Hongrie. Je suis désolée, le nom de son mari m'échappe. Elle a été reine consort de Hongrie au XIIIe siècle. Alors là, je me dis, il faut quand même le faire. On est au XXe siècle. Et M. Gagnebin, le premier exemple qui lui vient en tête, si un auteur cite Élisabeth, c'est une reine de Hongrie du XIIIe siècle dont vous n'y aviez jamais entendu parler, et moi non plus d'ailleurs. Et pas du tout à la chose la plus, tout de même, la plus plausible, qui est que Rousseau sait encore que Élisabeth a régné 40 ans sur l'Angleterre. Bon. Et ça, donc, c'est le XXe siècle. Donc oui, qui encore ?
Oh ben alors il y a Hegel aussi qui nous a inventé l'idée de la femme plante dans le genre paternité malheureuse. Elle vient d'où cette comparaison ? Et je me demandais, est-ce que quand on parle d'une femme comme d'une belle plante, c'est un petit dérivé de la formule d'Hegel ?
Ça pourrait.
Et d'où elle vient cette idée de la femme plante ? Elle pousse comment dans la tête d'Hegel justement ?
Oui, mais elle ne bouge pas. Donc. Oui, tandis que l'homme est un animal et la femme est un végétal. Ça, c'est Hegel.
Et vous développez aussi le concept de clôture masculine du savoir, en l'occurrence la façon dont les hommes s'approprient l'accès aux connaissances ou leur diffusion pendant des siècles. Vous prenez l'exemple de la gynécologie, où là, voilà. C'est quand même saisissant. Il y a encore 20 ans, le président de la Société française de gynécologie avait dit tranquillement « J'ai toujours considéré la gynécologie comme une branche de l'art vétérinaire. »
Oui, et il se vantait. Hein. Il se vantait parce qu'en fait, il vaut beaucoup mieux être une brebis gravide qu'une femme enceinte. Si on démarre sur la question de la gynécologie, on va arriver à des choses encore plus compliquées. Mais bon, j'avais projeté de parler un peu des femmes et de la médecine. Je n'avais jamais imaginé que ça prendrait une telle place dans mon travail. Mais l'exemple lui-même était finalement fécond, si je puis dire. Et ça m'a entraînée à justement lire un certain nombre de traités médicaux et de... J'ai notamment découvert une certaine Elizabeth Gray, comtesse de Kent, qui a laissé des papiers qui ont été imprimés à sa mort et qui avait un recueil de remèdes.
Elle a vécu quand ?
Comment ?
Quand a-t-elle vécu ?
Début 17e. Et alors, l'idée simple que j'avais tirée de mes premiers travaux sur la question, c'est que les femmes médecins ne constituent pas la gynécologie comme une spécialité à part. Du reste, mais soigne les maux dont les femmes peuvent souffrir dans le cadre d'une médecine générale. Et pour Elizabeth Gray, c'est très clair. Il y a des remèdes contre les morsures de chiens. Il y a des remèdes pour expulser un embryon qui est mort dans le sein de sa mère. Et puis, juste à côté, des remèdes contre la goutte et des choses comme ça. Et elle soignait les hommes et les femmes. Et quelquefois, avec plus de succès que les médecins qui étaient allés aux écoles et qui étaient diplômés, ce qui, évidemment, ne plaisait pas à tout le monde. Et il y a eu des procès retentissants parce que tout de même, avoir le tout de guérir des gens qui ont été abandonnés par les médecins, les vrais médecins, bien sous-entendu, ça se fait pas du tout et on se ramasse une grosse amende. Bon, et l'idée simple, c'était ça. Ben oui, Dominique, qu'est-ce que tu crois? Oui, bon. Et donc, mon idée simple, c'était il n'y a pas de nécessité à séparer la gynécologie d'une médecine générale. Et j'ai retrouvé la chose en acte, pas théorisée, mais en acte, dans un volume écrit par Anne McPherson dans les années 80, où de la même façon, elle voyait comment prendre en charge les maladies des femmes dans le cadre d'une médecine générale, chez les généralistes, et en indiquant simplement que dans certains cas, il faut passer la main à des spécialistes, mais les spécialistes sont d'une spécialité beaucoup plus pointue que la gynécologie, c'est-à-dire l'hormonologie ou des choses comme ça. Bon. Et donc l'idée simple, voilà, distinguer la gynécologie de la médecine générale, en soi, ça ne s'impose pas vraiment. Et les praticiennes ne séparent pas. Et j'en avais fait un cours à Genève, et c'est toujours pareil, mes élèves, bénies soient-elles, Là, c'était une collègue qui suivait mes cours et qui vient me voir à la fin, qui me dit, mais quand même, est trop tout là. Alors, je ne savais rien, moi, sur Trotula. Bon,
mais
alors,
on n'en sait pas grand-chose, nous non plus. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire ? D'ailleurs, vous dites même que peut-être il s'agissait de plusieurs personnes.
Ben, ça a été ça, ma conclusion. Mais en tout cas, le personnage peut-être mythique, c'est une femme qui aurait été professeure de médecine à Salerne au XIe siècle, et qui aurait laissé un traité qui s'appelle « Les maladies des femmes » ou le titre est flottant et on ne sait pas si elle a existé. Mais alors justement, si vous dites il y a des vilains antitrotulistes qui disent « Elle n'a sûrement jamais existé parce que de la culture écrite, ce n'est pas une femme qui a pu faire ça », et puis être professeur de médecine à Salerne, vous rigolez. Et puis il y en a d'autres qui disent « Mais oui, parce que quand même, elle a forcément existé, parce qu'il fallait bien qu'il y ait une femme qui s'occupe des autres femmes, etc. » Bon. Alors j'ai passé tout un été à lire les manuscrits attribués à Trotula. Et j'ai fini par penser qu'en fait, le titre est terriblement variable, mais le contenu aussi. Et que donc, il est très possible qu'il s'agisse de manuscrits qui étaient recopiés et re-recopiés et re-recopiés par des gens, des femmes sans doute, mais peut-être des hommes aussi, c'est-à-dire une sorte de collectivité qui gardait le message initial, sauf qu'il était très vacillant, le message initial. Et en tout cas, si on remonte en revanche à l'Antiquité grecque, alors là, c'est beaucoup plus spectaculaire. Chez Hippocrate, il y a la théorie gynécologique, 4 volumes, bon, mais qui est que théorique, c'est-à-dire le médecin pense, mais confie tous les gestes pratiques à des femmes qui sont ses auxiliaires. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on théorise alors qu'on ne sait encore rien. Et on sépare la gynécologie de la médecine courante et générale, alors que on fait des cases, alors que finalement, il n'y a rien à y mettre. Puisqu'elle est... Ben oui. Bon.
Et alors, dans votre essai, Michel Ledeuf, on a aussi de très bonnes surprises, mais qui sont assez étonnantes quand même, parce qu'elles sont vraiment bien cachées. Il y a Platon qui reconnaît que les femmes peuvent être philosophes, qu'elles peuvent participer comme gardiennes au gouvernement de la cité idéale, et il prône aussi l'abolition du mariage pour créer justement de l'égalité intellectuelle et donc politique. Et alors cet aspect-là, je pense que comme beaucoup de gens parmi nous, j'ai fait un petit peu de philo, j'en avais jamais entendu parler. Alors vous me direz, Platon a écrit beaucoup de choses, donc peut-être que c'est une petite chose parmi d'autres, mais quand même. Alors que c'est un philosophe qui a enseigné dans les lycées depuis des dizaines d'années, pourquoi est-ce qu'on a occulté ça ?
Alors, même si la théorie platonicienne n'est pas aussi révolutionnaire que ce qu'on aimerait, il ne faut pas trop se raconter d'histoire. Ce n'est pas un féministe échevelé.
Mais quand même, à côté d'Hegel.
Ah oui, non. Et à tout prendre, il vaut mieux Platon. Ça, c'est sûr. Mais le plus délicieux, tout de même, c'est que pour la classe des gardiens, En effet, il faut abolir le mariage pour créer de l'égalité intellectuelle entre les hommes et les femmes qui vous gardent. Ça, c'est... J'ai jamais lu une aussi grosse vacherie contre le mariage. Et c'est vrai, c'est extraordinaire. Mais avait-il tort ? Je n'en sais rien. Mais en effet, ça se trouve, il y a dans la République, par-ci, par-là, on trouve ces éléments. Alors, ne craignez rien, j'ai mis des notes en bas de page, vous aurez des références et vous pourrez vous-même vous faire votre opinion sur le dénommé Platon.
Et alors, une autre philosophe, cette fois une femme que vous aimez beaucoup, qui prône le célibat, pour le coup, c'est Gabrielle Suchon. Alors, elle est née en 1631, elle est morte en 1703. Elle sort péniblement, quand même, il faut le dire, de 300 années d'oubli. Et elle ne s'est jamais mariée dans le but de mener une vie tranquille. Alors, elle a écrit un traité du célibat volontaire et surtout un traité de la morale et de la politique. Donc, elle prône le droit au savoir et à la philosophie. Cette philosophe, vous l'avez découverte comment ?
Ah, je ne suis pas sa vraie découvreuse. C'est-à-dire que... le nom de Gabrielle Suchon apparaissait dans tel article pendant un paragraphe ou bien dans tel autre parmi mes contemporaines théoriciennes. Le travail que j'ai fait, ça a été de lire les textes eux-mêmes et en entier. Ça n'a pas été une corvée du tout, d'ailleurs, parce que je la trouve très marrante.
Elle ça a vous une... fait un point commun.
Comment ?
Ça vous fait un point commun.
Bon. Et elle a eu une existence difficile parce que on l'a mise au couvent. Elle a été dominicaine pendant quelques années. Il a dû se passer des choses pas drôles dans le couvent parce qu'elle a été, semble-t-il, sanctionnée et expédiée dans un autre couvent, sauf qu'elle n'est jamais arrivée dans l'autre couvent et qu'on la retrouve chez sa mère. Oui, son père était mort. Et elle est donc allée habiter chez sa mère. Son seul biographe, un dénommé Papillon, raconte qu'elle avait obtenu de Rome d'être relevée de ses vœux, mais le Vatican prétend n'avoir aucune trace de la question. Allez savoir. De toute façon, le Vatican, c'est une de mes étudiantes de Genève qui avait écrit au Vatican pour leur demander ce qu'ils avaient dans leurs archives. Et elle a reçu la réponse en moins de 48 heures, ce qui ne laisse pas imaginer une recherche approfondie dans les archives du Vatican. Et bon, on sait que le courrier du Vatican est trié en Suisse. Et là, elle avait écrit de Genève, mais tout de même, c'est incroyablement rapide. Non, nous n'avons pas de traces. Mais peut-être qu'elle ne s'est pas fait relever de ses vœux, qu'elle est simplement partie... de son propre chef, elle-même, et elle a passé le reste de sa vie à enseigner les enfants. Elle a été institutrice à Semur en Auxois, à lire et à écrire. Et elle devait avoir sous la main une très bonne bibliothèque aussi. Bon, peut-être au couvent avait-elle commencé à trouver une bibliothèque, mais ça existe, hein, des bonnes bibliothèques de couvent. Mais elle a dû aussi hériter de son père une bonne bibliothèque, j'imagine.
Alors ici, il y a une bonne librairie qui va fermer dans 10 minutes. Donc, si vous le souhaitez, on vous donne ces 5 minutes pour que celles et ceux d'entre vous qui le souhaitent puissiez vous procurer les scènes Michel Ledeuf. Et puis nous, on se retrouve aussitôt après.
Non, je disais, c'est rigolo, l'anecdote sur Spinoza. Non, il y avait quand même Descartes qui était allé chez Christine de Suède, qui était quand même, enfin, qui était roi de Suède, hein, ceci dit, elle n'était pas reine de Suède. Mais il aurait pu y penser quand même.
Oui, il aurait pu y penser.
Oui, c'est ironique ou.
Oui.
Est-ce que c'est vraiment apprendre au premier degré, c'est tellement mais intéressant, parce que ça a été au contraire un siècle où il y en a eu plusieurs. Il y a le Marie de Guise.
Oui, Mary Tudor.
Mary Tudor.
Bah oui.
Est-ce que vraiment il dit ça sérieusement ou est-ce que,
oui, je crois qu'il était emporté par son stylo et sa plume. Et que il a fait un déni de réalité total. Oui, c'est grave, hein. Mais non, ce qui m'interloque le plus, c'est pas que Spinoza se soit pris les pieds dans le tapis, c'est que depuis lors, il y a eu des centaines et des centaines de commentateurs, de traducteurs qui sont passés sur ce texte et qui n'ont pas soulevé le problème. Ça, c'est quand même grave. Personne qui fasse une note en bas de page disant Spinoza, assez âgé pour l'époque, se trompe ou attention, ceci n'était qu'un brouillon qu'il n'avait pas vraiment relu. Ben non. Aucun des traducteurs et des éditeurs de ce texte n'a dit qu'il y avait un problème. Bon.
Qui aimerait poser une question ou faire une remarque?
Oui, j'aimerais savoir quand il est sorti. Quand
est sortie la première édition du livre, quelles sont les remarques qui t'ont le plus surprise finalement? Ou choqué, ou fait plaisir.
J'ai pas entendu.
Lors de la parution du livre, oui. La première fois en 1998, parmi les gens qui vous ont fait des retours dessus, qu'est-ce qui vous a le plus choqué, ou étonné, ou surprise?
On va pas parler de ce qui m'a choqué en grand. Principe, les grandes filles. Ne remarche pas en public les horreurs. Bon. Bon, bon. Néanmoins, il y a eu des vacheries qui ont circulé et qui me sont revenues aux oreilles. Mais, bon, il n'a pas été mal reçu tout de même. Hein. Il y a eu de la presse, il y a eu surtout que 10 jours après sa sortie, l'éditrice Monique Labrune me téléphone en me disant « Michel, on est obligé de réimprimer ». Ça lui déchirait le cœur. On est obligé de réimprimer parce que dans tel dépôt qui fait tout le nord-ouest de la France, on est à sec. Bon, alors on s'est résigné à réimprimer chez Aubier. Et puis ensuite, il y a eu le troisième tirage en Garnier Flammarion. Donc on ne peut pas dire que ça ait été un malheur terrible à me coller du cafard et que j'aille cacher ma tête dans le sable, pas du tout. Mais on ne peut pas dire non plus que ça m'ait rendu populaire auprès d'un certain nombre de gens qui se sont sentis visés. Oui. Oui. Bon, j'y peux croire, hein.
Moi, je veux savoir, parce que vous, bon, à la fois, vous avez écrit toute une, j'allais dire, une histoire de cette philosophie féministe qui ne s'est pas faite ou qui ne s'est pas vue ou qui n'a pas été lue. Et vous avez aussi enfin, écrit de manière biographique sur ce que ça pouvait vouloir dire que d'être philosophe féministe pour votre génération. Et moi, ma question, ce serait, comment est-ce que vous voyez la situation actuelle de la philosophie féministe? Est-ce que, enfin, où se situent, d'après vous, encore les obstacles?
Estelle, je vous présente Estelle Ferrarese, qui dirige l'Institut du genre et qui pourrait répondre elle-même à sa question, et brillamment encore, parce qu'elle a les chiffres. Et oui.
Non, mais ce n'est pas chiffres, c'est vous, comment vous voyez, et qu'est-ce qui gêne encore, qu'est-ce qui empêche, où sont les...
Ah. Oui, ben, comme dirait Claude Gauthier, qui est un de mes éditeurs actuels pour les éditions de l'ENS, l'égalité des sexes n'est pas une priorité pour les philosophes. Alors oui, c'est vrai, c'est pas une priorité du tout, mais ils ont tort. Et non, Estelle avait fait un exposé il y a 2 ans de ça, à peu près, sur les mémoires de, on dit plus DEA, on dit Master 2, ayant un intérêt féministe et issu de diverses disciplines. Et ce qui était évident, c'est qu'il y a 2 disciplines où il y a eu une percée spectaculaire, c'est la sociologie et l'histoire. Bon. En revanche, la philo, ben, on n'en parle pas vraiment beaucoup, quoi. Et en littérature, c'est pas clair non plus qu'il y en ait beaucoup. Mais alors, comment moi je vois la chose? Ben, j'ai l'impression qu'il y a un mur de briques. Ben oui. Et un refus de prendre en compte même les difficultés des élèves femmes et des collègues femmes, et un refus d'explorer la tradition philosophique pour voir où tout de même ça gêne aux entournures. Et j'ai l'impression que de ce point de vue, on a encore à faire les prolégomènes de préalable de début. Que... Alors moi, j'ai fait mon boulot, vraiment, mais s'il n'y a pas des groupes de jeunes philosophes qui se mettent à interpeller collectivement les collègues hommes ou la situation et à reprendre le point de vue critique, ben, on en sera encore là dans 50 ans. Non, je ne veux pas être pessimiste. Je retire ce que je viens de dire, mais le phallocentrisme est resté dans le monde philosophique, comme si Simone de Beauvoir n'avait jamais existé. Alors, de temps en temps, on voit une auteure femme qui réussit à se faufiler dans les programmes de terminale. En général, c'est Hannah Arendt qui sert de femme alibi, parce que tout de même, elle n'était pas vraiment révolutionnaire, et puis elle n'était pas si féministe que ça, finalement. Donc voilà, on peut. Puis elle était solide en philo grec. Enfin, bon, on peut y aller. Mais sinon, quand Simone de Beauvoir a été mise au programme, il y a eu des levées de boucliers de collègues hommes que je ne vais pas nommer parce que je les connais personnellement Et c'est pas la peine qu'ils changent de trottoir quand ils m'aperçoivent, mais disons, on inflige aux élèves des textes qui ne sont pas à leur portée et qui ne correspondent pas à leur centre d'intérêt. Bon. Voilà. Voilà.
En fait, ce n'est pas du tout propre à la philo. On peut s'étonner qu'en philo, ça soit comme ça, mais dans le domaine de l'art, de la musique, par exemple, ou des arts, c'est pareil, il y a un phallogénisme extraordinaire. Les compositrices, il y a des compositrices, il paraît, moi je ne les connais pas, mais il paraît qu'il y a des compositrices géniales qui sont toujours moins connues.
Qu'on ne joue pas.
Qu'on ne joue pas.
Ouais. Ouais. Ben oui. Ben oui. C'est-à-dire que toutes les disciplines battent leur coupe. J'imagine qu'en physique, c'est pas plus rigolo. Ni en astrophysique. Bon. Ni en mathématiques. Bon. Et un copain mathématicien m'a expliqué un jour très gravement qu'il y avait un problème terrible pour l'école française de mathématiques. Et quand on dit l'école française de mathématiques, évidemment, là, on parle vraiment de Christian Dior. Hein. Et le drame sur lequel il s'était penché avec des collègues, c'est que les Sévriennes et les Fontenaisiennes matheuses ne se dévaluent plus. Alors que précédemment, elles avaient la modestie de demander des postes en lycée et que du coup, on pouvait leur donner des mathélèmes, enfin des terminales S, et elles faisaient des merveilles pour préparer des élèves à des études de mathématiques. Et voilà qu'il y avait une révolution. Elles, une fois agrégées de maths et docteur en mathématiques, elles voulaient un poste au CNRS ou alors à l'université. Et ça menaçait complètement l'excellence de l'école française de mathématiques. Et il me disait ça à moi, et le plus sérieusement du monde.
Aïe, aïe, aïe. Bon, il y a encore des programmes, et il y a quand même des lueurs d'espoir.
Sûrement des lueurs d'espoir. Et merci. Puis, il était question qu'on boive un peu quelque chose, et ça me paraît une très bonne idée, parce qu'on ne va pas se quitter en se disant bon sang de bonsoir, en 50 ans, ça n'a pas bougé.
Non, mais déjà, merci Michel.
Mais, ma chère Marjolaine, merci à tout le monde et merci à vous. Et je propose aussi qu'on boive à la santé de deux personnes qui ne peuvent pas être là parce qu'elles étaient à Lyon. Vanina Modi-Conacci et Claude Gauthier. Elle est sortie de l'École normale supérieure de Lyon a passé une thèse sur le sujet féministe en sciences de l'éducation. Lui est un collègue de l'ENS de Lyon, titulaire de la chaire de philosophie politique. Les deux ensemble dirigent cette collection Perspective genre. Et sans eux, nous ne serions pas ensemble aujourd'hui. Donc je propose qu'on boive à leur santé aussi.